Alors, je ne sais pas si la France est candidate à succéder à l'Italie. Mais vous voyez d'où vous devez sortir. Un peu comme on dit, mais d'où sortir, s'il vous plaît. Car Israël, Malchut Shelahem, Rumit Alem, Gadem, Mitor, Malchut Aumot. Je vais ouvrir ici une petite parenthèse malgré tout, parce qu'on s'approche de midi déjà. Et avant de vous donner la parole, on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Je commence à ressentir les effets du voyage. En général, c'est le troisième jour que ça m'arrive. On est bien au troisième jour. Bon. Alors, il fait chaud aussi, on va prendre 5 minutes de aération. Ceci. Alors, comme nous aurons peut-être un jour, mais ouvrez là déjà. Un jour, le. Vaïd, d'ailleurs, Mashvichi, Biyotam Koavim, c'est le troisième jour. L'occasion de reprendre un texte du Maharal que vous avez étudié une fois dans le séminaire avec Michel Pain, vous vous rappelez, sur Hanouka, où il y avait le problème des quatre enfants. Vous vous rappelez de ça? Bon. Et alors là.
D'accord, non?
Oui, donc, il y avait le cadavre. Et là, il y avait d'ailleurs en filigrane un sujet que je me demande si je ne vais pas prendre le temps de l'écrire, et une explication du symbolisme de la croix par le Maharal. Enfin, rassurez-vous, il ne traite pas du tout de ça, mais il explique que il est nécessaire que les empires soient au nombre de quatre, parce qu'ils divergent à partir du centre. Vous vous rappelez du symbolisme de la croix? Et alors, qui ils ont mis au centre? Un juif. Crucifié. Oui, il y a ici quelque chose de terrifiant. C'est-à-dire, tout se passe comme si, à travers ce symbole, les empires ont compris ce qu'elles faisaient, ce qu'ils faisaient. Est-ce que c'est clair? Alors, on va essayer un peu de décrypter, mais on va faire ça un peu détendu, pendant 5 minutes. Je vais vous raconter la dernière histoire juive qu'on raconte sur la rive gauche, du Jourdain aussi. il paraît qu'on a maintenant suffisamment de preuves que lorsque les empires déifient leur conception du Messie, il est évident que ça ne peut être qu'un juif. On prend par exemple le mythe chrétien. Alors, il paraît qu'il y a quatre dimensions où c'est clair. D'abord, il est resté 33 ans chez sa mère. Vous connaissez ça? Et puis ensuite, elle l'a considéré comme un dieu. Et puis lui, il l'a considéré comme une vierge. Et enfin, il a repris la femme de son père. Ça veut dire, c'est très exactement le juif mythique. Vous comprenez? Et c'est vrai tout ça. Si on racontait l'évangile selon Belleville à la tunisienne, c'est vrai que c'est comme ça. Okay? Alors, mais il y a quelque chose d'assez terrifiant. C'est-à-dire qu'on prendra très exactement l'identité d'Israël comme centre, non pas comme centre signifiant, mais comme centre crucifié, cet écartèlement des quatre empires. Ben c'est dans ce sens que le Midrash va nous dire d'où il vient, d'où il viendra. Il ne sera pas parachuté de extraterrestre, je ne sais pas si c'est à ça que vous pensiez hier, non. Mais il viendra de Rome, c'est-à-dire il sortira avec la sortie d'Égypte de l'Occident, avec ce que nous appelons aujourd'hui en termes historico-politiques le sionisme contemporain. C'est comme ça que c'est passé. Il sortira de Rome. Bien. Alors, voilà donc jusqu'où nous sommes arrivés aujourd'hui. C'est déjà pas mal, on a fait la moitié du chapitre et on reprendra la suite demain. On a quand même quelques minutes, si vous avez des questions d'élucidation à poser. Bien, oui. Comment on peut arriver? Oui. Ça symbolise des sociétés humaines. Dans la. Ça veut dire. L'identité messianique jusqu'au dévoilement se trouve comme la victime qui se trouve chez son bourreau. Okay. Marc. Attends, pas plus fort. Ah oui, je voulais signaler cela, effectivement. Vous vous rappelez, grâce à une remarque de Pierre, vous rappelez ce que nous avions vu déjà hier un peu en détail, c'est que le temps privilégié pour la révélation de la Torah, c'est le temps du milieu. Et par conséquent, là, nous avons une analyse que le milieu de chaque période de temps, c'est l'essence même de ce qui se passe dans cette période de temps. Et donc, ce n'est pas par hasard que c'est au milieu de la période des 2000 ans prévue pour les temps messianiques que sont apparues toutes les tentatives messianiques qui ont avorté. Ça veut dire que c'était par privilège les temps possibles de la messianité réalisée. Et elle a échoué, remontez-nous à Rabin. On va revenir quand même sur ce problème de cette faute-là. De quelle faute peut-il s'agir? De quel mérite peut-il s'agir? Je reviens sur cette question quand même. Vous avez compris ce qui est dit là? Essayez de situer Shabbat Haïtzim, par exemple, et tous ces mouvements-là. Eh bien, c'est le milieu du temps consacré à la période messianique. C'est-à-dire que c'était des périodes de la messianité possibles. Elles ont échoué. Baravonotenu Arabi. Bon. Le Maral, bien sûr, explique ça dans d'autres endroits. Mais qu'est-ce que vous répondriez à ce niveau de question? Quand on nous dit comme ça, à cause de nos fautes séparées, quel genre de faute? De quoi il peut s'agir? Est-ce que c'est clair? La question? Désolé, peut-être qu'on laisse la question en suspens, qu'on y réfléchisse et qu'on l'aborde demain. Oui, c'est la réponse, vous avez entendu? Non. C'est évidemment pas des fautes au niveau des actes, c'est fautes au niveau de l'être, de la manière d'être. Peut-être que demain je prendrai plus de temps pour parler de cela. Parce que, au niveau des actes, il y aurait dérision à relier ce qui peut être fait comme mal au niveau de la non-accomplissement de tel ou tel commandement. Et par exemple, si on mange kasher comme le Bédine et pas comme le Rav, je ne sais pas qui. Par exemple, on a dit de moi à Paris que je ne mangeais pas kasher. Vous savez pourquoi? Il dit, mange chez tout le monde. Et jusqu'à ce qu'on s'est aperçu que ça veut dire chez tout le monde qui mange kasher. Moi, ça, c'est pas kasher. Vous avez compris? Et alors, c'est pas à ce niveau-là. C'est-à-dire que ce qui est arrivé dans l'histoire, la non-venue du Messie, ça ne peut pas être ramené à des explications dérisoires de ce genre. Est-ce que c'est clair? Donc, c'est pas des fautes au niveau des actes. C'est ses conduites au niveau des actes. Ça concerne la destinée des individus en tant qu'individus. Okay? C'est au niveau de l'être. Bon, et la réponse que propose Régine, une première réponse possible, eh bien, ça consiste dans le fait lui-même d'être en galoute ou pas en galoute. C'est la faute d'être loin ou près au niveau de l'être. Si vous voulez, pour reprendre mon jeu de mots habituel, il y a une certaine cache-route qui cache la route. C'est la cache-route. Okay. Des choses comme ça. Bon, c'est une première réponse. Oui, vous en avez d'autres. Bien, c'est du point de vue du projet, ça s'impose au goyim en général, grosso modo, ce sont les mitzvot de la loi des brites des blés noirs. C'est ce même projet de moralité qui est beaucoup plus affiné, beaucoup plus exigeant dans le détail de l'ensemble des mitzvot pour Israël. Mais il est bien évident que cette mise à l'épreuve, elle est sur trois axes. Ben Adam Lamakom, entre l'homme et Dieu. Ben Adam Lachavero, entre l'homme et son prochain. Ben Adam Lehatzmo, entre l'homme et lui-même. Dans le vocabulaire contemporain, on appelle religion les mitzvot de la Torah qui concernent Ben Adam Lamakom, entre l'homme et Dieu. Les mitzvot du culte, si vous voulez. On appelle morale les mitzvot Ben Adam Lachavero. On appelle vie spirituelle les mitzvot Ben Adam Lehatzmo. Ou vie culturelle, si on choisit un vocabulaire immanentéiste. Et alors, il s'agit bien de la morale, je reviendrai là-dessus, c'est-à-dire des mitzvot de la Torah qui concernent la morale. Parce que si vous voulez, ces trois problèmes doivent être résolus. Mais, dans l'ordre d'urgence, c'est le problème des mitzvot de Ben Adam Lachavero qui est le plus urgent, le plus grave, le plus important pour ce qui va devenir l'histoire de l'humanité. vais reprendre une analyse que nous avons eue une fois. Là aussi, il y a une différence entre la messianité de perception chrétienne et la messianité de perception juive. La messianité de perception chrétienne, elle, semble être focalisée, à la limite, fascinée, hypnotisée par le problème de la faute du premier homme. Il faut être vertueux, quels que soient les niveaux de vertu définis, pour la rédemption de la faute du premier homme. La faute du premier homme, c'était la faute contre Dieu. Il a mangé d'un arbre qui lui donnerait, du fruit d'un arbre, qui lui donnerait la connaissance de ce qui est bien et mal. Qu'est-ce que ça veut dire en un peu décrypté? Ça veut dire qu'il se présente comme donnant lui le critère de la différence entre le bien et le mal, qu'en voulant substituer sa loi à la loi du Créateur. C'est ce qu'on appelle dans l'histoire de la philosophie l'humanisme. Le premier homme était un humaniste. On pourrait le dire en hébreu l'adamisme. Et alors que selon la tradition juive, cette faute a déjà sa rédemption dans le principe. Et je vous dirai comment. Mais que l'effort porte sur la faute du deuxième homme, c'est-à-dire Caïn tuant Abel. C'est au niveau de Ben-Adam à Havero. Vous comprenez pourquoi l'accent sera mis? Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Zeklal Gadol Vatorah. C'est l'essentiel de la Torah. Et les chrétiens ont entendu cela. Ils savent très bien qu'il s'agit de cela. Seulement, ils le disent, mais qu'est-ce qu'ils font? Ils s'occupent de la faute du premier homme en disant que l'essentiel, c'est la faute du deuxième homme. Et la faute du deuxième homme ne trouve pas sa rédemption. Parce que toute l'énergie spirituelle dont étaient capables les chrétiens s'est engouffrée dans un faux problème, la faute du premier homme, le péché originel. C'est un faux problème. D'après la tradition juive, c'est depuis le roi David que la faute du premier homme a trouvé sa rédemption. Vous connaissez ce midrash? Que le premier homme devait vivre 1000 ans, okay, mais il n'a vécu que 730 ans. Pourquoi? Parce qu'il a vu dans sa descendance un roi d'Israël qui n'aurait pas de temps pour vivre. Il a demandé à Dieu de lui donner au moins 70 ans de sa vie. C'est les 70 ans du roi David. Et c'est le roi David qui a fait la capara de la faute du premier homme. Comment? C'est depuis le roi David qu'il y a une société sur terre où c'est Dieu qui est roi. Il a rendu la souveraineté à Dieu, qui a malchut shel chai. C'est clair, David a fait le tikkun de la faute du premier homme. Ça ne veut pas dire qu'à l'échelle individuelle, ce n'est pas encore à refaire. Mais il n'y a plus cette obsession du péché originel. Est-ce que c'est clair? Vous voyez que la messianité chrétienne est un peu en retard. Comment dire en retard? Elle est dans la préhistoire. Okay? Parce que le véritable effort de la messianité, c'était de construire la société où Caïn ne tue pas Abel. La société où on reconnaît la souveraineté de Dieu, ben ça, il y a longtemps que ça existe, dans le principe, à partir de la royauté d'Israël. C'est le premier roi qui rend Dieu roi sur terre. Et ça n'a rien à voir avec les royautés de droit divin, c'est tout le contraire. C'est tout le contraire. Et alors, oui, c'est pas par hasard que le premier fils du roi David, et qui on attend, ma chère Ben David, le fils de David, s'appelle Shlomo. Et ça veut dire l'homme de la paix. Il ne pouvait pas avoir un autre nom. Ce n'est pas possible. C'est-à-dire, c'est le Ben David qui est l'effort messianique. David, ça y est. C'est pourquoi le Messie qu'on attend, on l'appelle Ben David. Est-ce que c'est clair? Vous voyez à quel point les chrétiens sont décalés en arrière. C'est-à-dire, ils ne savent pas encore que Israël a reçu la Torah et qu'il l'a acceptée. Vous voyez quel est le problème? Alors là, il y a une espèce d'incompréhension, d'autant plus que c'est tragique, parce que toute l'orthodoxie chrétienne officielle est dirigée vers le vrai problème. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Mais toute la ferveur de la christianité, de la chrétienté, va en arrière sur le problème du péché originel. Est-ce que c'est clair? Mais je l'ai dit un juif tunisien. vous voulez dire chez les chrétiens? Eh bien voilà, c'est ce dont nous avons parlé tout à l'heure. C'est-à-dire, c'est précisément cette identité d'Israël qui est censée être médiatrice entre le Créateur et les autres sociétés humaines. Seulement, elle a été mythifiée, elle a été rendue idole en effigie. C'est un mythe, plus vraiment et simplement. Je vous avais promis une fois, on le fera un jour, de faire un séminaire sur le texte des évangiles. Et vous verrez comment on révise un mythe. Et comme vous le savez, nous sommes anti ce mythe. Okay. C'est le commencement. C'est le commencement. Mais c'est David en tant qu'il est roi d'une société. Abraham, c'est à l'échelle individuelle.
Je croyais que David avait justement aussi posé en recensant, en voulant faire de l'administration, si on peut dire, et recenser les hommes.
Oui, là il y a une dimension intérieure à ce problème. Mais ce que je veux dire, c'est que c'est la première fois que la souveraineté est rendue. La souveraineté sur la société comme telle est rendue au Créateur. Et voilà, c'est la ligne de la ligne de la messianité. Alors, c'est la même chose pour Abraham, mais un individu. David, c'est le représentant d'une collectivité. À ce niveau-là, c'est irréversible. Et donc, ce premier messie est arrivé, celui qui s'appelle David. Et on attend celui qui résoudra le problème de la faute du deuxième homme, Caïn tue Abel. Attendez, madame avait demandé, oui. Un peu plus fort, hein. Le Messie qui vient et le Messie qui revient. Et... D'abord, merci. D'abord, en reprenant brièvement ce que nous avons vu hier, un Messie qui revient, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il est venu nous visiter une fois, il n'était pas satisfait, il est parti, il va revenir. Et moi, j'y perçois un fonctionnement de la pensée magique. Et alors que le Messie qui vient, ça veut dire qu'il y a un engendrement qui se cherche à travers notre histoire. Et c'est en train de venir, c'est en train d'être engendré. Vous rappelez que le terme pour dire histoire en hébreu, c'est tolados, les engendrements. C'est le récit des mutations d'identité du sujet de l'histoire. Et là, ça se relie à une toute autre mentalité qui identifie Dieu et le Messie. Chez les païens, chez les non-juifs, eh bien, le Messie et Dieu sont consubstantiels. C'est le Messie qui est Dieu, à l'indice fils. Bon, et ça s'explique. Tandis que dans la tradition juive, ça n'a rien à voir. Il y a Dieu et il y a le Messie. Le Messie, ça veut dire l'homme authentique, qui correspond au projet divin. L'homme authentique et qui est en cours d'engendrement à travers l'histoire. Et à chaque étape peut apparaître, je dirais ça en langage bergsonien, une espèce de prototype avant la lettre. Okay? Alors l'égoïme adore ça. Vous savez que Joseph était lui-même objet d'adoration. Tous ceux qui jouent le rôle de Joseph dans l'histoire, on les embaume, mausolée, et on fait la queue pour les adorer. Même si ça se passe à Moscou, c'était ça l'Égypte des pharaons. Vous comprenez le problème. Et alors, ça n'a rien à voir avec ce que le christianisme dit du Messie, que c'est un homme qui est Dieu, que c'est un Dieu qui se fait homme. C'est l'homme authentique, c'est le Ben Adam, c'est le fils de l'homme par excellence. Et oui, comme nous étions gênés pendant des siècles, à cause de cette difficulté de parler un vocabulaire apparemment commun pour dire des choses radicalement différentes. J'y ai fait allusion hier soir, d'ailleurs. Alors vous comprenez, qu'est-ce qu'il y a dans ce Messie qui revient? Le Messie qui revient pour nous sauver, ça n'existe pas, ça, dans la tradition biblique. Le Messie qui vient, ça veut dire que le Fils de l'homme est engendré et que le temps est arrivé de la béatitude universelle. Mais qui fait cela? Dieu. Le Messie, c'est la figure de proue de la société d'Israël. Et à chaque stade. Je voulais simplement citer quelque chose avant de donner la parole, que je voulais citer les fois précédentes. Nous disons dans la prière une phrase très claire. Ephes Biltecha Goalenu, Limot Amashiach. Rien d'autre que toi, notre libérateur, ça veut dire Dieu, le Créateur, au temps du Messie. Je répète en hébreu. Ephes Biltecha Goalenu, Limot Amashiach. Et le Mashiach, Ephes. J'ai compris. Ça veut dire que, quand on dit Ephes, ça veut dire rien. Zéro. Et quoi zéro? C'est les temps du Mashiach? Oui, il fonctionne. Mais c'est Dieu qui est Dieu. Vous comprenez à quel point nous sommes en dehors de la mentalité chrétienne. Est-ce que c'est clair? Alors, un Messie qui vient, dans le sens qu'il est engendré, est en train de venir, ça c'est la tradition juive. Un Messie qui revient, c'est le Dieu sauveur qui revient nous sauver parce que la première fois il n'a pas réussi. C'est autre chose. Ah oui, ça donc. Ah oui. Écoutez, je crois que la catégorie la plus claire serait ce à quoi j'ai fait allusion tout à l'heure. Si vous voulez, on peut penser un jour un séminaire là-dessus, parce que c'est très important. C'est qu'on a distingué la moralité et la légalité. Et que la société est gérée par des lois légales, même si l'intention était morale, et le fonctionnement d'une société, s'il y a uniquement la légalité comme règle, c'est la barbarie. Quel que soit l'ordre logique de ce coutumier qu'on appelle la Constitution, si ce n'est pas la moralité elle-même qui est la Constitution. Alors il n'y a que dans l'identité prophétique hébraïque que l'on voit cette identification. Ou la loi légale, c'est la morale elle-même, ou ce monde ne valait pas la peine d'être créé. Alors, c'est le cas particulier de la société d'Israël. Partout ailleurs, il y a abdication de cette espérance. Renoncement à cela. On va aménager ce renoncement. On se satisfera de la légalité comme loi, et la moralité, ben, c'est affaire privée. Qu'elle soit théologique ou pas, c'est affaire privée. Et l'identité juive traditionnelle, c'est un refus systématique de ce monde-là qui s'appelle Rome et toutes les sociétés de droit romain. Ça ne veut pas dire qu'on ne connaît pas la moralité, mais c'est une moralité très relative, et qui est renvoyé à la vie privée des intentions. La société fonctionne d'après la légalité. Et où sont les critères? Eh bien, les critères, et là, il faudrait des analyses, y compris les critères, c'est l'intérêt des plus forts. Les critères, c'est l'intérêt des possédants. Les critères, tout cela, les prophètes ont dit. Mais où est le mal? Le mal, c'est qu'on substitue l'idée de Hukka, le légal, comme la valeur suprême. Ici, un danger pour la société israélienne, c'est ça. Parce que nos formes sont projetées de la démocratie occidentale, les formes légales sont projetées de la démocratie occidentale, et il y a conflit entre ceux qui ressentent ce fait que c'est la moralité qui doit être la loi, et ceux qui, venus d'Occident, nous répètent encore, c'est la loi qui est la moralité. Vous voyez c'est clair? Bon, ah, c'est ça notre problème. Attendez, je crois que monsieur... Et après on revient à toi, oui, n'est pas peur. C'était dans le sujet. Ken. La problématique messianique, si j'ai bien compris ta question, c'est de faire coïncider, de réaliser dans la réalité le projet de vérité du Créateur lorsqu'il pense à l'homme. C'est-à-dire de faire exister dans la réalité l'homme de vérité. Marcher et abria. Okay. Et, si vous voulez, nous vivons dans un temps du monde qui s'appelle Orlamazé, où il y a inadéquation perpétuelle entre le projet dans sa vérité et la réalité. Nous sommes toujours que approximatifs du projet. Okay. Et c'est clair ce que je dis. Bon. Et étudiez attentivement le Maaseh Bereshit, le récit de la création. Où toujours la Torah vous dit, Vayi Chen, qu'est-ce qu'il y a eu? Quelque chose qui ressemble. Ainsi, ça veut dire comme, pas plus. Okay. Je dis qu'il y ait cela, homme. Et nous étudions la Torah pour savoir qu'est-ce que c'est homme dans la vérité. Je reviendrai à cela tout à l'heure. Mais dans la réalité, qu'est-ce qu'il y a? Quelque chose qui ressemble, qui frôle, qui s'approche, mais qui est loin. L'image que j'emploie souvent, c'est une image mathématique, qui n'est que asymptote à cela. Okay. Et alors, la foi messianique, c'est que la coïncidence entre la réalité et la vérité est possible. Qu'il peut y avoir coïncidence dans la réalité avec la vérité telle que Dieu l'a projetée. C'est ça la foi messianique. Et alors, toute identité qui va plus dans le sens de cette coïncidence entre vérité et réalité est dite messianique. Dans la réalité. Okay. L'idolâtrie, c'est de prendre un modèle de juif et l'adorer comme idéal inaccessible. Il a fait ça pour nous. Il reviendra pour nous dire t'as plus rien à faire. Okay. C'est une toute autre mentalité qui n'a rien à voir avec la messianité juive, qui commence à Abraham l'hébreu. Alors il y a les étapes d'acquisition des vertus qui, unifiées tout ensemble, feront naître le Ben Adam. C'est-à-dire l'homme authentique, le fils de l'homme, l'être pour qui le monde avait été créé. Et l'identité messianique, ce n'est pas Abraham seul, mais elle commence à Abraham. Parce qu'Abraham est le juge d'une vertu unique, la charité. Ce n'est pas Isaac seul, fils d'Abraham, mais elle continue grâce à Isaac. Parce qu'Isaac est l'homme d'une vertu unique, la vertu de justice. Heureusement, elle est reliée à la charité. Sinon, elle serait catastrophique. Comme la charité qui n'est pas reliée à la justice est aussi catastrophique. Alors il y a un effort d'unification de toutes ces vertus d'étape en étape, et David donc, a son rôle. Quelqu'un a dit là, que David avait eu des tentations. Okay. Et oui, l'être messianique, mais tout ça est raconté dans les évangiles, mais sous forme symbolique et mythique. Okay. Ça se passe dans le rêve des juifs. L'homme, l'identité messianique est soumise à toutes les tentations. Le diable, pour parler comme les chrétiens, ne s'occupe de personne d'autre. Il s'occupe que de tenter les justes. Parce que c'est ceux-là qui peuvent réussir. Et sa tentation. Bon, c'est-à-dire ceux qui plantent leur tentation. Et ça s'est raconté dans les évangiles. Ça veut dire qu'au fond, il faut retenir cela pour se dégager un peu de cette assimilation à la mentalité chrétienne. Le chrétien croit en ce en quoi le juif est censé être. Voilà le problème. Il y a donc bien un projet à travers un engendrement d'identité. Et c'est vrai à l'échelle individuelle, c'est la destinée de chacun. C'est vrai à l'échelle globale de l'histoire humaine, y compris la société d'Israël comme centre signifiant, mais Rome, il y a eu un centre à crucifier. Okay. Vous voyez comment cette cohérence se met en place. Et la messianité dont nous parlons, c'est la messianité au niveau global, historique, général, qui se dévoile de notre temps, avec l'apparition de l'État d'Israël. Et on voit les sociétés humaines groupées autour, mais qu'est-ce qui se passe là-bas? Est-ce qu'on va laisser cela se faire? Etc. Attendez une minute, je vais terminer. Et puis la résurgence, avec une intensité telle qu'on ne comprend plus les mots qu'ils emploient, des deux rivalités que nous raconte la Torah dans la famille d'Abraham, Ishmaël d'un côté avec l'islam et Ésaü de l'autre avec la chrétienté, et avec les mêmes objectifs de rivalité. C'est cela qu'il faut tout simplement entendre, voir, et de façon très schématique, c'est ça qui se passe. Alors, l'option de foi messianique, c'est que cet enfant qui est né, il est né, et il n'est pas candidat au suicide. C'est un peu ce que j'ai dit, hier soir, en disant le projet politique messianique n'est pas à la fin du processus messianique comme l'ont vu les marxistes, par exemple. Il est au début. Il nous faut d'abord une société d'engendrement pour que l'identité messianique ultime, celle dont le Maharal a parlé aujourd'hui, la mutation qui nous permettra d'arriver à Triatamiti Maharalamaba, à la résurrection des morts et au monde à venir, à la transfiguration du monde. Et nous, nous sommes pressés, nous sommes très pressés. Parce que le temps est arrivé. Nous sommes à le vendredi soir dans la cuisine juive avant que le kidouche commence. Alors, cela est vraiment à l'échelle sociopolitique. C'est pourquoi je crois que, quelle que soit la valeur de l'expérience messianique individuelle, c'est le chassidisme. Okay, c'est plein de valeurs. Je me demande si ce n'est pas un problème dépassé, que le problème urgent, c'est le problème de la société humaine en tant que messianique. Alors bien sûr, pourquoi pas des membres chassidifiés, okay. Mais ce qu'il y a d'inquiétant, c'est de voir que ceux qui sont préoccupés du salut personnel, très doux, bien que ça se dise acide, sont en dehors de la société qui en est concernée. Si vous me permettez une image, vous comprenez ce que je dis gentiment, okay. Là il y a un scandale. Mais si vous me permettez une image, c'est l'image du pain levé ou du pain qui ne lèvera pas. À la sortie d'Égypte, le pain n'a pas levé. Pour faire du pain, il faut de la farine, de l'eau et du levain. Alors, ça y est, c'est clair. Et si vous faites votre pain que avec le levain, alors d'une part, le pain ne lèvera pas, parce que le pain sans levain, alors il va falloir ajouter quatre cossos. Et d'autre part, ce pain que vous faites avec du levain, il va aigrir. C'est pas du pain. Et c'est ce qui se passe quand les vocations individuelles de sainteté, la société qu'elle devait concerner. Alors la société apparaît comme laïque, entre guillemets, okay. Et puis cette sainteté-là, qui a été mise à part et enfermée à double tour dans des forteresses qui s'appellent les yeshivot, elle est gris. J'ai compris le drame qui se passe. Est-ce que c'est clair? Voilà, c'est un peu ça qui se passe.
On parle de séparation de
l'Église. Oui, pour ça, en mentalité occidentale, d'autre part. Attendez, est-ce que ça a été suffisamment clarifié? C'est un projet d'engendrement. Pendant 2000 ans, nous avons habitué à penser ces concepts à l'échelle mystique individuelle. Subitement éclate la nécessité de les penser au niveau sociopolitique. Okay. Mais c'est de ça dont le Maharal parle, Malchut, Malchut. Et alors, oui, je vous donne une autre image. Quand, par exemple, les juifs religieux, dont mon ami, et je le considère comme un frère, on a eu le même maître, Michel Prince, se fait le porte-parole... Et c'est jamais convenu à l'avance. Il a la liberté de parole et mon sang. Eh bien, ne croyez pas que c'est un jeu de dialectique. C'est malheureusement sérieux. Nous disent, mais il faut mettre la mezouza sur la maison. Eh bien, d'accord, il faut mettre la mezouza sur la maison. Ici, d'abord, on construisait la maison pour mettre la mezouza. Mais je veux dire ce qui risque d'arriver. Vous rappelez l'histoire du juif qui s'est installé dans son champ pour attendre sa marche ou sa marche. Vous rappelez de ça? Ah, il faut d'abord construire une maison pour mettre la mezouza dessus. Alors, pendant ce temps, il prépare la mezouza pour mettre sur la maison. Et peut-être que quand la maison sera construite, on n'aura pas besoin d'eux pour mettre la mezouza. On la mettra tout seul. Est-ce que vous comprenez le problème? Parce qu'on est en train aussi de préparer la mezouza. En calligraphie. Oui, alors c'est à toi après. Oui. Et il faut manger pour vivre. Je vous dirai comment, c'est une phrase de notre maître. Ça commence d'abord dans les casseroles et dans les drapis. Bon. Ça veut dire comment on fait les gosses et comment on mange. Ça commence là, les choses sérieuses. La halakha commence là. C'est clair? Bon. Alors, qu'est-ce que tu veux? Allez, oui.
Le
lieu de la résurrection, parce que le temps de la résurrection est arrivé, si c'est si c'est Erev Shabbat. Erev Shabbat est...
Alors, si on s'arrête sur cette phrase, ça veut dire que dans le temps de clôture dans lequel nous sommes, dans le temps de notre débat, il est avec les morts.
Explique. Ça, je crois qu'on est sur le bord de quelque chose.
Je m'explique pas, c'est-à-dire que je prends l'exemple précis que vous avez cité.
Très très bien, très très bien. Je vous dirais d'une certaine manière que peut-être notre génération vit très intensément. Et alors c'était très ambivalent. Faire attention au culte des morts. C'est ceci, c'est que nous avons d'une certaine manière conscience que tous nos ascendants attendent de savoir quelle option nous allons avoir, nous, parce que nous les transportons avec nous, ils sont dans notre mémoire. Et je veux dire, ce n'est pas du tout une figure littéraire. Ça veut dire leur destinée va dépendre de ce que leur dernier descendant fera. Est-ce que c'est clair? Bon. Si vous voulez, pour le dire en termes sionistes simples, quand un juif arrive en Israël aujourd'hui, il ne vient pas tout seul. Il vient avec toute sa lignée qui attend avec angoisse qu'est-ce qu'il va faire, pourvu qu'il ne se trompe pas de guichet, pourvu qu'il n'arrive pas à Brooklyn, en Amérique. Vous voyez ce que je veux dire?
On dit que quand on tue quelqu'un, on tue toute la descendance, c'est là quand on... Le jour où on va mourir, on amènera...
On sauve toute son ascendant. Très bien.
C'est dans les deux sens.
Oui. Alors, il faut bien faire attention que... il ne s'agit pas de culte des morts, hein, mais qu'effectivement, notre dialogue messianique, il est avec ceux qui nous ont précédés.
C'est la différence. Oui. Si on comprend que nous, 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 on comprend que
nous, on comprend que nous, on
comprend que nous, on comprend que
nous, on comprend que nous, on comprend que nous, on comprend que nous, on comprend que nous, on comprend que nous, on comprend que nous, un Messie qui revient ne sauve que les contemporains, alors qu'un Messie qui vient sauve... Très bien. On pourrait dire, quoique les chrétiens diront, non, nous parlons aussi de la résurrection des morts.
Okay?
Ah oui, absolument, c'est ce que je dis. Mais j'ai compris ce que Eva veut dire. Effectivement. Cette critique, je la ferai plutôt sur... C'était une calomnie d'ailleurs, parce que ça vient de Mussolini, donc du fascisme, et on l'impute au marxisme. Que c'est un messianisme de la dernière génération seulement. Ceux des lendemains qui chantent, par exemple, mais c'est surtout cette expression que les générations sont le fumier de l'histoire. Et finalement, nous sommes tous des fumiers pour la dernière, qui, elle, que ce serait messianique, mais en supprimant tous les passés. C'est clair ce que je veux dire. Bon,
quel okay. C'est en sachant écouter la voix des morts,
mais quand on entend,
on
entend
la
croix
des
voix. Ah oui, mais quelle mort! Quelle mort! Rabbi Shimon Bar Yochai, non? Quelle mort! Non, il faut bien faire attention. Ça veut dire que vous savez qu'il est interdit de faire parler les morts. Mais il faut les faire parler vivants. C'est-à-dire les morts qui parlent vivants. Et, c'est-à-dire ceux qui avaient quelque chose à dire et qu'on continue à entendre parce qu'ils le disent. Et aujourd'hui, c'est le Maharal qu'on a essayé de faire parler. Mais on n'a pas fait parler à mort, il est vivant ce texte. C'est clair.
Non, mais les autres, il n'y a pas de parole. Mais,
vous savez, il y a une phrase dans la Gemara qui dit, il y a une seule différence entre les vivants et les morts. Une seule. C'est que les morts continuent à vivre comme les vivants, mais ils ne parlent plus, ils n'interviennent plus.
Okay? C'est quoi l'interdiction?
L'interdiction de faire parler les morts, je veux dire les cadavres. Okay? Les morts en tant que morts. Voilà. Non, s'ils sont vivants. C'est ça, oui. Je crois que c'est clair. C'est-à-dire que si je vous dis, par exemple, le Maharal nous dit que, j'ai pas dit nous a dit que, il nous dit maintenant, c'est pas une figure de style. Il est vivant. Et nous ne pouvons que lui donner la parole. Et c'est pour ça qu'il faut être tellement scrupuleux, parce que c'est lui qui parle. Et si on le fait parler comme un mort, par exemple, si on fait une thèse sur le Maharal, on le fait parler comme un mort. C'est l'auteur de la thèse qui parle, et il parle d'un mort. Est-ce que vous comprenez ce que je dis? Ça se passe à l'université.
Je voudrais juste vous poser une question.
Oui, et puis on va arrêter là parce que...
On parle toujours des descendants d'Ishmaël et d'Ésaü. Mais c'est donc les chrétiens et les musulmans, et les autres, les noirs et les
autres, etc. Écoutez, et ça c'est les autres familles de la descendance de Noah. Mais pendant 2000 ans, notre relation avec les autres n'a passé que par l'église et la mosquée, si j'ose dire, ou la croix et le croissant. Nous étions enfermés en ghetto chez eux, chez les autres. Et aujourd'hui, il peut y avoir relation directe entre l'identité d'Israël et les nations comme telles. Mais jusque-là, c'était à travers eux. C'était un problème intérieur, la famille d'Henri, vous aviez demandé la...
Je peux dire que cette maladie politique dont nous parlons a au moins commencé dans cette société de 1920.
Tu parles de la société d'Israël. C'est son projet. Et son projet, très exactement, utopique dans le sens des analyses d'hier soir, pour ceux qui étaient là. Okay? Absolument. Relisez les classiques des pères fondateurs, comme on les appelle. Ce sont tous des sociaux utopiques. Okay? Tous, sans exception. C'est de ça qu'ils parlent. Mais ce que je veux dire, c'est que le principe de la possibilité de cet élément indispensable à la réussite d'une société morale et qui s'appelle le droit, c'est Rome qui l'a donné. C'est Rome qui l'a exprimé pour le monde entier. Seulement, voilà, l'échec, c'est quand il n'y a que le droit, que la légalité. Est-ce que c'est bien compris? C'est-à-dire, s'il y a un individu qui souffre à Rome, ça veut dire que cette société est perdue. C'était l'image du mirage. Comment une société qui a comme principe le droit, il y a des gens qui souffrent? C'est donc que le droit est nocif. Ce droit est nocif. C'est clair. Alors, dès qu'on sait qu'il y a un souffrant à Rome, le Messie est en train de naître pour remplacer Rome. Mais il sort de Rome. Je ne sais pas si c'est suffisamment clair, mais je vous donne une image. Le Zohar explique que le plus grand maître de la Mishnah, qu'on appelle Stam Mishnah, c'est Rabbi Meir. Le plus grand maître de la Mishnah, Stam Mishnah, on n'a même pas besoin de le citer. Quand la Mishnah parle, c'est Rabbi Meir qui parle. C'est-à-dire la force de la forme légale de la loi morale. La Torah Shebaalpeh, la Mishnah, est un descendant d'Ésaü. Et ça veut dire, en d'autres termes, c'est Rome qui nous donne la capacité juridique au service de la Torah. Mais si elle n'est pas au service de la moralité, si elle s'érige en légalité, Rome doit être détruite. Par exemple, j'ai trouvé Moïse. Oui, très exactement. Ça veut dire que nous apprenons de Rome le droit. Mais si c'est que le droit romain, si c'est pas le droit de la moralité, c'est la catastrophe de Rome. Moi, je crois qu'il faut recoder, on n'a pas le temps, on se voit à si peu d'heures à la fois, recoder tous les registres à la fois. Okay? Et si vraiment c'est trop embrouillé, on essaye de les débrouiller. Pensez tout ça à la fois. Au niveau de l'analyse des concepts, au niveau de l'analyse des valeurs, au niveau de l'analyse de l'expérience que nous avons dans la vie intérieure, de la vie spirituelle correspondante, mais surtout, c'est ce que j'essaye de vous apporter personnellement, surtout au niveau du diagnostic des événements historiques. Est-ce que c'est clair? Il est en train de se passer cela. Toutes les sociétés du monde vont dans le sens des sociétés de droit romain. Seul Israël veut fonder sa société sur le projet de la Torah. Avec des juifs non religieux, avec des juifs religieux, avec des juifs purs, avec des juifs pas purs. Mais c'est un fait de société. C'est-à-dire que la moralité et la légalité doivent coïncider. Notre conflit intérieur, nous l'avons avec les juristes. Okay? C'est entre rabbins et juristes. Et le danger, c'est que ça bascule dans la légalité.
C'est la raison ici.
Pareil.
Que cette moralité, très précisément, ceux qui devraient dépendre de la moralité, c'est
la raison. Là, tu donnes un autre sens au mot, et là, je suis d'accord avec toi. Okay? Mais il ne s'agit pas de ça. Il s'agit de la légalité officielle. Quels sont les textes auxquels on doit se référer pour dire ça il faut, ça il faut pas, et on emploie l'armée et la police pour ça ou pour, pas pour ça. Yamit ou pas Yamit, par exemple.
Ça veut dire.
Oui. Absolument. Absolument. Tant qu'on laisse le Navi et le Cohen, il manque deux personnages, le Melech et le Chauffet. Okay? C'est clair. Ça veut dire il faut que les quatre soient d'accord. Alors il y a Mishkan. Il faut que les quatre soient d'accord. Si. Le Chauffet et le Meller et le Cohen et le Navi ne disent pas la même chose, la société éclate. On n'a pas traduit, hein, parce que ça prendrait trop de temps, mais on en parlera un autre jour. Si tu veux, je vous donnerai dans la référence.
Moi, je ne suis pas sûr de bien comprendre. Je ne suis pas sûr de bien comprendre. Quand vous parlez de résurrection, qu'est-ce que ça veut dire exactement,
les
résurrections des morts?
Mais je vous ai dit moi-même qu'on ne comprend pas. Enfin, pas encore. Mais je vous ai donné un seul exemple. Et ce n'est pas une façon de parler. Moi, j'étais à l'université française en un temps où on parlait encore de l'hébreu comme langue morte. Cette langue a ressuscité. Alors essayez d'expérimenter ce que ça représente. C'est, ça, minute. Non. Ça c'est les formes de la déformation. Mais comme langue, elle a ressuscité. Je vais vous dire, il arrive aujourd'hui que c'est un fait de société et non pas un fait d'individu, d'élite. C'est un fait de société. Il y a aujourd'hui des enfants qui rêvent en hébreu. Ce n'était pas arrivé depuis le temps du patriarche Jacob. Il s'est passé quelque chose qui est de l'ordre de la tria. Et je pense que c'est clair. Oui. Et puis on s'arrête là, parce que l'heure.
Le danger, qu'est-ce qui se passe,
les juristes l'emportent. Il y aurait une guerre civile parce que nous sommes...